Nous avons tous lu un passage tiré de Genèse 13, chapitre 13, le premier 8 versets. Je vais juste prendre la dernière phrase de cette, dans le 8, verset 8. Genèse 13, verset 8. Genèse 13. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et l'histoire, c'est que les deux, ils trouvent un bel endroit pendant leur voyage, et ils remettent leur tente. Donc, il y a un dispute qui s'éclate entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Hein. C'est ça. Et finalement, c'est Abraham, il va trancher cette situation en disant que qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc nous allons pour ce soir retenir seulement cette phrase, car nous sommes frères. Je pense qu'en tant qu'église de Christ, en tant que corps de Christ, ces mots devraient peser très fort, car nous sommes frères. Parce que si nous sommes tous ici, je pense qu'on parle le même langage. Je parle pas le langage français, je parle le langage qu'on comprenne très bien, même si on ne dit rien, mais on peut comprendre. Abraham a dit qu'il ne devrait pas y avoir de conflit entre eux parce qu'ils étaient frères. Il devrait y avoir une unité, une bonne volonté entre frères. Et quand on dit qu'on est des frères, on devrait avoir une entente, une bonne volonté et une unité. C'est une des difficultés majeures dans l'Église de Christ aujourd'hui, les querelles entre les frères. C'est tout à fait possible. Et dans toutes les églises, on peut parfois avoir des problèmes entre les frères, entre les sœurs. Quand je dis frères, et les sœurs sont bien sûr inclus, entre deux croyants, entre deux disciples de Christ. Il y a eu des disputes entre les disciples de Christ, n'est-ce pas? Donc, quand Christ était là parmi eux, il y avait une dispute qui éclatait entre les disciples. Donc, c'est tout à fait possible. Et le conflit entrave notre efficacité. Et en tant que frères, en tant qu'une église, nous devrions travailler ensemble. Nous sommes censés de travailler ensemble. Donc, le conflit entrave notre efficacité en travaillant avec ceux de l'extérieur de l'église. Et nous sommes censés d'apporter la bonne nouvelle aux gens qui sont à l'extérieur du corps de Christ. Donc ça, ça devient une difficulté quand nous n'avons pas une bonne entente. En travaillant les uns avec les autres dans le corps de Christ même. Et si nous entendons pas très bien, si on parle pas le même langage, et si on a la difficulté de relation, on peut avoir des difficultés pour grandir ensemble, pour travailler ensemble dans le corps de Christ même. En nous empêchant d'être des chrétiens que nous devons être. Et quand on a des conflits, quand on a des disputes, quand on a des choses litiges entre nous, on ne peut pas être tel que nous devrions être. Mieux vaut un morceau de pain sec. Je vais donner beaucoup de références ce soir, mais si vous voulez, vous pouvez noter les références. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Proverbe 17:1. Donc, on peut avoir une grande église avec beaucoup de ressources, avec beaucoup de choses, mais s'il y a des querelles, ça ne sert à rien. Et Proverbe 17:19, celui qui aime les querelles aime le péché. J'étais même interpellé par ce verset. Celui qui aime les querelles aime le péché. On peut, les querelles, on peut parfois dire que oh, c'est pas grand chose, c'est la maison entente où il y a des petites histoire de communication. On peut dire que, voilà, j'étais mal compris, ou il a mal compris ce que j'avais dit. Mais, celui qui aime les querelles, aime le péché. Celui qui aime le péché, il ne peut pas être le disciple de Christ. Jacques 3,16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est très fort, ces versets dans la Bible. Jacques 3,16, car là où il y a un zèle amer, on peut avoir le zèle, on doit avoir le zèle dans l'Église. Mais ici, il y a un zèle amer. Il y a un esprit de dispute. On peut faire quelque chose, mais pas avec un mauvais esprit, pas avec un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, les actions, on peut juger les actions de certaines, mais ça vient de mauvaise attitude, d'un mauvais esprit. Les conflits sont interdits dans l'Écriture. La parole, il interdit toutes sortes de conflits dans le corps de Christ. Parce qu'un corps, c'est un être vivant. Donc, il devrait grandir, il devrait bouger, il devrait vivre. Et donc, la parole, il est très, très catégorique par rapport à la querelle. La querelle ne doit pas être au sein de l'Église. Il n'y a pas de place pour des querelles. Car nous sommes frères. Hein, ce que Abraham l'a dit. Et Proverbe 3, 30, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Parfois, il y a des gens qui... C'est simplement les mots, le jeu de mots et tout ça, mais parfois ça commence comme ça, mais finalement ça devient une dispute. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il t'a point fait de mal. Proverbe 17, 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Proverbe 23, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Parfois, ça peut être une discussion philosophique qui termine aux querelles. Des principes qui ne viennent pas certainement de la Bible, qui peuvent finir comme ça. On peut parler de théologie et finalement, ça finit avec une querelle. Proverbe 25:8, ne te hâte pas d'entrer en contestation. Tout à l'heure, avec notre frère, on a parlé de contestation. Les gens qui sont pas contents avec l'autorité que Dieu l'a placée. Et il y a une contestation, il y a toujours une contestation. On peut contester toutes choses. Donc, ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Parfois, on ne pense pas comment ça va terminer. On commence certaines choses sans réfléchir. Mais on entre dans quelque chose. Au mieux, abstenir. Au mieux, abstenir. Et regardez ce que Romains 13 dit. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc la parole nous avertit très clairement que nous devrions éviter les querelles et les jalousies. Et encore, je lis en Galates 5, 20, on peut identifier, ça vient de où? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, si à l'église de Christ, on est en train de quereller, on est en train de faire des disputes et tout ça, mais la parole de Dieu nous dit clairement que nous ne pouvons pas entrer au ciel avec cette conduite. Nous devrions abandonner cette... si nous avons cette attitude de querelle, si nous avons cette habitude, nous devrions abandonner immédiatement. Parce que la parole nous instruit. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux avec toutes ces choses. Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais pourquoi les gens, ils contestent? Parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent que s'il y a des discussions, on pense qu'on a raison. On peut avoir raison. Mais souvent, si nous considérons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, si nous, on peut considérer des autres en étant au-dessus de nous-mêmes. Car nous ne connaissons pas toutes choses. Ce que je croyais que c'était bon hier, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est toujours bon. Mais seulement la parole de Dieu peut trancher. Il peut m'instruire. 2 Timothée 2, 14 rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Dispute de mots. Qu'on évite les disputes de mots. Donc, il faut savoir où s'arrêter. La discussion, parfois, c'est bonne. On devrait avoir la discussion, bonne discussion entre la communication. Dieu nous donnait cette faculté de communiquer qui n'est pas donnée aux animaux. Les animaux, ils ne peuvent pas communiquer comme nous. Mais nous avons cette faculté. Mais combien de fois nous avons abusé cette ce don que Dieu nous a donné, ce don de communication. Et combien de fois la discussion se tourne en dispute. La Bible nous exhorte à être unifiés. Jean 17, 20, 21, c'est la prière de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'était le souhait de Jésus-Christ, que ses disciples, ses enfants, soient un, dans le même corps. Mais je ne sais pas combien nous avons compris combien c'est profond cette pensée d'être dans le corps de Christ. Nous sommes plus indépendants, nous sommes plus libres de faire les choses comme on veut. Mais auparavant, nous étions comme ça. Mais maintenant, on ne peut pas faire quelque chose juste parce que ça me semble bon, je ne peux pas faire ces choses. Je devrais tout faire pour plaire à mon Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose qui peut ennuyer la santé de la cour de Christ. 1 Corinthiens 1, 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'on parle le même langage ici. Et bien évidemment, dans notre église, on ne parle pas tous le même langage. Il y a certains qui parlent très bien français, il y a certains d'autres comme moi qui parlent très mal le français, et certains d'autres, on ne comprend même pas le français. Il y a toutes sortes de gens ici. Et pourtant, ici, je vous exhorte faire, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Qu'est-ce que ça veut dire, ce langage, alors? Et ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Si nous avons le même esprit et un même sentiment, bien évidemment, nous allons parler le même langage. Je ne pense pas que le langage, quoi qu'il soit, anglais ou français ou autre, parfois, on a des visiteurs, la famille Smith qui était là, mais on ne parle pas le même langage, on ne parle pas la même langue, mais pourtant, on a pu communiquer avec eux. On parle le même langage. On parle le même langage. C'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. À cause de cela, on parle la même langue. Et 2 Corinthiens 13, 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et de Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, si nous avons le même sentiment qui était en Jésus-Christ, comme dit aux Philippiens, le même sentiment, et normalement, il n'y aura pas de place pour les disputes et des querelles. Philippiens 1, 27, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et bien sûr, ça parle de querelles. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, en acte 2, nous lisons que les disciples, il était plus de plusieurs milliers de personnes. Des chrétiens, mais ils sont demeurés ensemble, dans le même esprit, dans le même sentiment. Et comment c'est possible? Dans le monde, ce n'est pas possible. 1 Pierre 3, 8, enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc la parole nous donne la recette pour éviter les querelles, dans le corps de Christ. Quelles sont les causes de conflits entre frères? Nous devrions voir. Donc, une chose, c'est la haine. On peut avoir l'haine. On peut avoir l'haine quand il n'y a pas d'amour fraternel. Quand nous ne voulons pas l'amour fraternel, on peut avoir l'haine. L'haine existe des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes, Proverbe 10, 12. Nous ne pouvons pas aller au ciel avec cette attitude. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc sans la vie éternelle, on ne peut pas aller au ciel. Si on a haï notre frère, mais donc nous devrions poser cette question, est-ce que je aime tous mes frères? Comme Christ me demande de l'aimer. Et un autre aspect, ça peut être, le premier c'est haine, et le deuxième c'est l'orgueil. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Proverbe 13, 10. C'est seulement par l'orgueil, par l'orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La fierté incite les hommes à être litigieux au sujet de leur opinion. Donc, si dans le corps de Christ, chacun il est fier de son appartenance, de lui-même, et ça peut... Ça crée la querelle dans le corps de Christ. Mais si tout le monde était humble comme Christ, il était. Il n'y a pas de place pour la querelle dans le corps de Christ. Et le troisième, c'est le mépris. Et la parole dit, Proverbe 22, 10, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. On n'a pas besoin de dire quelque chose pour moquer de quelqu'un. On peut avoir une pensée, une attitude moqueur. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et l'outrage cesseront. Proverbe 22, 10. Et quatrièmement, l'esprit des querelles. Proverbe 26, 20, 22. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur réchauffe une dispute. Un homme querellier échauffe une dispute. Et c'est-à-dire un rapporteur. Parfois, on n'est pas directement dans la querelle, mais on rapporte les choses. On dit une parole qui n'est pas vraie, peut-être. On peut inciter les querelles dans l'Église. Il faut faire très attention avec les mots que nous utilisons. Et parfois, ça peut l'air très innocent. Ce qu'on a, j'ai entendu que, mais tu peux pas être sûr de ça, ce que tu as entendu peut-être. Et après, même si on dit la vérité, nous devrions poser la question, est-ce qu'on a besoin de dire ces choses à ce moment précis? Oui, certaines personnes, ils aiment simplement ajouter du carburant au feu. Il y a déjà une dispute, on devrait tout faire pour éteindre le feu. Mais pourtant, parfois, on aime bien voir la querelle. Mais ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Et une autre chose dans l'esprit de querelle, c'est le commérage. Ce qu'on peut... Des paroles vaines, la parole inutile, la parole méchante, on peut rapporter, on peut parler de quelqu'un, derrière le dos de quelqu'un. Et souvent, nous vivons dans une situation dans le travail où il y a le commérage. Et c'est très très difficile, je sais. On peut très vite être tiré dans cette affaire. On peut être impliqué dans cette affaire. Et cinquièmement, c'est la colère. La parole dit, en Proverbe 22, un homme colère excite les querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Un homme colère excite des querelles. Si nous sommes colériques, il faut savoir que on peut exciter des querelles. Un homme colérique ne peut plus avoir de raisonnement. Il ne peut pas réfléchir. Et donc nous devrions faire une introspection pour demander si on a de colère. Si on a gardé la colère contre quelqu'un. Ça peut arriver. On est en colère contre une situation ou contre quelqu'un. Et à un moment donné, il y a deux personnes qui parlent. On va entrer dans cette conversation. On va dire quelque chose qui peut inciter des querelles. La sixième, c'est la querelle peut être lieu à cause de semeur de zizanie. Proverbe 30-33, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Il y a des personnes qui veulent toujours créer les zizanies. Les querelles aussi, c'est la discorde, ou la mésentente, ou désaccord. Il y a toujours des personnes qui veulent créer les zizanies. Et une autre raison, le point 7, c'est on peut avoir une ambition qui n'est pas saine, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Une mission dans l'Église, dans le corps de Christ. Et l'exemple est en Luc 22-24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devraient être estimés le plus grand. Ça, ce n'est pas, ça vient pas de Dieu pour demander qui est le plus grand parmi eux. Mais le disciple, il avait cette pensée, cette ambition, qui n'est pas du tout, qui vient pas du tout de Dieu, mais c'est complètement charnel. Et donc, nous devrions examiner de soi-même si nous avons une ambition qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et un organe dans le corps, il est censé de simplement remplir sa fonction. Il ne peut pas avoir une ambition à part. Et ainsi, dans le corps de Christ aussi, on ne peut pas avoir une ambition si ça ne vient pas de Dieu, de volonté, si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et un autre aspect, c'est parfois on peut trouver les gens qui refusent de grandir en tant que chrétien. Refuser de grandir en tant que chrétien, et ça peut créer la querelle dans le corps de Christ. Et regardez ce que Paul il dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, la première 3 versets. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, parfois dans l'église, on trouve, dans une église normalement, dans une église locale, il y a tout type de personnes. On n'est pas tous dans le même niveau. Il y a des gens qui sont là depuis 25 ans, mais on peut poser des questions. Pourquoi ils ont un esprit de dispute, un esprit de querelle, esprit de dispute dans toutes choses? Parce que la raison, c'est qu'ils refusent de grandir. Ils refusent d'être nourris. Ils refusent de nourriture solide. Donc, nous devrions faire attention que nous prenons, nous devrions demander à nous-mêmes, est-ce que nous prenons une nourriture solide de la parole de Dieu? Et deuxièmement, ça peut être la jalousie. Quand il y a de la jalousie parmi les frères, on peut avoir la querelle. Jacques 3,16, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute. Il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. L'envie ou la jalousie est un grand mal dans le corps de Christ. Comment pouvons-nous prévenir des querelles entre frères? Et il faut faire notre mieux pour éviter les conflits. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça parle bien sûr ceux qui sont dehors de l'Église. Et éviter le conflit doit être notre premier objectif dans le corps de Christ. Il faut éviter toutes sortes de conflits. Deuxièmement, il faut être lent à la colère. Proverbe 15-18, un homme violent excite des querelles. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Jacques 1, 19-20, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais ça peut arriver dans certaines choses, on peut penser qu'on a raison. Et quand on pense qu'on a tout à fait raison, on pense que notre colère elle est juste. Et souvent ça nous arrive de penser comme ça. Quand on peut dire que moi je ne suis pas comme eux, je suis ferme dans mon raisonnement, donc de ce que je crois. Mais lent à parler, prompt à écouter, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parfois on peut se mettre en colère en pensant qu'on va accomplir quelque chose. Mais ce que Jacques il dit, pas du tout. Et troisièmement, nous devrions apprendre à éviter les querelles. 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est seulement, mais j'étais même étonné de savoir combien de versets on trouve dans la Bible qui parlent contre ces choses. Et efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si on ne connaît pas la parole de la vérité, si nous ne sommes pas conscients de ce que la parole il pense de ces choses, on ne peut pas agir positivement. Nous ne pouvons pas faire mieux que nous le savons et nous faisons rarement aussi bien que nous savons. Et nous devrions connaître les choses, ce que la parole de Dieu nous dit, pour accomplir ces choses. Et c'est rare que nous faisons tout ce que nous savons dans la parole de Dieu. Et pratiquez la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, 12. Et à chaque fois nous agissons dans une situation particulière, nous devrions penser que si moi j'étais là, qu'est-ce que je voudrais que les gens me donnent? Est-ce que j'aurai le même traitement? Est-ce que je vais donner le même traitement comme moi je souhaiterais avoir? Tant de problèmes seraient résolus si nous vivions tous par cette philosophie. Et cinquièmement, soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit. Mais en anglais, je n'ai pas trouvé le même mot en français. En anglais, la Bible dit que long suffering est patient et d'être patient dans toutes circonstances. Être patient dans toutes circonstances. Et la patience est un fruit de l'esprit, comme nous trouvons en Galates 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 12, 13. Et sixième, grandir dans l'amour fraternel. Grandir dans l'amour fraternel. Vous aimerez l'étranger. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et quel traitement nous donnons à quelqu'un qui vient d'arriver dans notre assemblée? Est-ce que nous aimons vous prenons comme un frère en Christ et est-ce que nous démontrons le même amour? Nous devrions aimer les autres sans faire de distinction de la race, la richesse ou de la statut social et aussi sans égoïsme. Et si nous devrions montrer l'amour de Christ, c'est un amour sans égoïsme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il faut abandonner cette attitude de, c'est moi le premier. Mais ce qui est dedans nous, on a cette, ce combat dans notre cœur. C'est le moi, il est bien sur le trône de notre cœur, le moi. Donc c'est normal que le moi, il vient bien souvent. Même si on n'est pas conscient, le moi. C'est une preuve que nous sommes des disciples de Dieu. Et que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à la garde de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Dit Paul à Thessaloniciens 3:12. Nous devrions avoir un amour sincère. Que la charité soit sans hypocrisie. Romains 12:9 et 1 Pierre 1:22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc, pour éviter les zizanies, pour éviter les querelles, nous devrions pratiquer l'amour fraternel au sein de l'Église, au sein du corps de Christ. Nous devrions être des artisans de paix. Matthieu 5, 9, dans la Béatitude, le Seigneur Jésus il a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que nous sommes des artisans de paix dans le corps de Christ? Quelle est notre contribution? Chaque fois, on n'a pas besoin d'être là où il y a des disputes. On ne peut pas être là, mais si la situation elle est telle que vous êtes là, nous sommes là, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes des artisans de paix? Est-ce que nous sommes artisans de paix entre deux frères, deux sœurs? Ou nous sommes en train de verser le kérosène dans le feu? En conclusion, nous ne devons pas être la cause des querelles. En aucun cas, nous ne devrions pas être la cause des querelles. Deuxièmement, nous devons éviter ce mal. En tant que corps de Christ, nous devrions, nous tous, efforcer d'éviter ce mal qu'on appelle les querelles, les zizanies, les disputes, les vaines paroles. Troisièmement, nous devons promouvoir la paix et le bien-être dans le corps de Christ. C'est pour l'épanouissement de chaque chrétien dans le corps de Christ, dans l'Église de Christ. Nous devrions tout faire pour promouvoir la paix entre les frères. Et ça, c'est possible uniquement quand on a la pensée de Dieu, la pensée de Christ en nous. Et quand on est... Et très longtemps, le frère Steve Burns, il a dit, c'est comme un triangle. Et en bas, il y a beaucoup de personnes. Et on est en train de tous regarder en haut, qui est Christ à la tête. Et quand on approche de Christ, plus en plus, le lien devient étroit. Et on a la pensée de Christ. Et donc, nous devrions prendre la nourriture solide pour grandir, pour éviter ce mal et pour être l'artisan de paix dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse pour mettre ces choses en pratique. Prions. Seigneur notre Dieu, la parole nous dit que tu as aimé ton Église et tu as donné ta vie pour elle. Et Seigneur aussi que tu es en train de sanctifier ton Église, tu es en train de perfectionner ton Église et pour ton avènement, et tu la rendras parfaite pour ce jour, sans rides, sans tâches. Et Seigneur, nous savons que c'est nous, l'Église, et nous t'appartenons chacun à ton corps. qui est saint. Seigneur, tu nous as pas appelés pour vivre selon nos volontés, mais tu nous as appelés pour vivre selon ta volonté. Aide-nous à mettre ta parole en pratique dans le jour, dans la vie de jour après jour. Seigneur, aide-nous à chercher la sanctité, sainteté. Seigneur, aide-nous à regarder Christ qui est notre modèle parfait. Seigneur, tu nous connais tel que nous sommes. Nous sommes encore imparfaits. Nous avons des choses à abandonner. Nous avons des choses à apprendre. Seigneur, que ton Esprit Saint nous apprend les choses que nous avons besoin d'apprendre. Que Seigneur, ton nom soit glorifié par nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans la vie de notre Église. Seigneur, comme ta parole dit, ainsi que quand les hommes, ils voient, ils peuvent glorifier le Père qui est aux cieux. Seigneur, façonne notre vie telle que nous pourrons amener la gloire à ton nom. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège de t'appartenir, de pouvoir parler avec toi en liberté et de pouvoir écouter ta parole avec la liberté que tu nous donnes dans ce pays. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là parmi nous. Nous prions que tu les gardes, tu les conduis aussi. Nous prions ceux qui souffrent parmi nous. Seigneur, nous prions pour eux. Seigneur, garde-nous pendant que nous partons d'ici et amène chacun chez lui en sécurité. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.